Vous écoutez RTL.
7h48, Olivier Mazerolle, vous recevez ce matin Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale.
Bonjour Najat Vallaud-Belkacem.
Bonjour.
Ce soir, vous serez avec le président de la République pour sa présentation des vœux à la jeunesse et vous avez amené avec vous Louane, qui va chanter Un automne à Paris, musique du trompettiste Ibrahim Mahalouf, parole de son oncle et l'écrivain membre de l'Académie française, Amin Mahalouf. Quel message voulez-vous adresser à la jeunesse française ?
Bon, d'abord, c'est une superbe chanson. Vraiment, merci d'en avoir passé un morceau. L'idée est née justement après les attentats de janvier. Vous vous souvenez que l'école a été très mobilisée, qu'on a demandé beaucoup de choses aux enseignants, d'expliquer aux élèves, de lever leurs angoisses, qu'on a mis à leur disposition des ressources pédagogiques qui étaient souvent très sérieuses, très lourdes. Et pour l'anniversaire d'un an de Charlie, on s'est dit on va essayer de leur procurer à ces enseignants et à ces élèves un autre type de ressources, quelque chose de beau, une création musicale, artistique, faite exprès pour eux. Et Ibrahim Mahalouf, le trompettiste vraiment de talent, son oncle, Amin Mahalouf, c'est la première fois qu'ils collaborent ensemble, un grand écrivain, un grand académicien, comme vous l'avez dit. Amin Mahalouf a écrit donc le texte, Ibrahim l'a mis en musique et Louane a accepté de le chanter. Et ça vous fait une chanson qui est pleine de sens sur ce qu'est la France, les valeurs de la France, sur ce qu'est l'avenir aussi, parce que quand on en est à l'étape de l'anniversaire de la commémoration, il faut savoir se tourner vers l'avenir aussi, avec l'envie de se battre. Et c'est ce message-là qu'on passe aux jeunes. Et on leur dit, ben, sur cette chanson, toutes les classes pourront se la réapproprier parce qu'il y a un quatrain sans parole sur laquelle elles pourront venir rajouter leurs propres paroles, puis la faire chanter dans les chorales, l'étudier en classe.
Alors, vous avez raison, c'est une très belle chanson. Mais qui touche effectivement au sentiment. Et on attend aussi du concret de la part de l'exécutif. On attend la suite. Je voudrais vous faire entendre ce que disait Daniel Balavoine à François Mitterrand. Il y a 36 ans, ce sont des paroles qui semblent prémonitoires.
La jeunesse se désespère. Elle est profondément désespérée parce qu'elle n'a plus d'appui. Elle ne croit plus en la politique française. Ce que je peux vous dire, c'est que le désespoir est mobilisateur et que lorsqu'il devient mobilisateur, il est dangereux et que ça entraîne le terrorisme, la bande à Badr et des choses comme ça.
Alors à l'époque, le terrorisme était gauchiste. Aujourd'hui, il est islamiste et il n'embrigade pas seulement des jeunes d'origine musulmane. Que fait l'école pour convaincre nos jeunes de résister à cet appel de l'intégrisme islamique et montrer que notre société vaut la peine d'être défendue ?
D'abord, j'ai envie de vous dire que c'est la mission première de l'école, d'une certaine façon, que de donner un sens pour les élèves à ce que nous avons à faire ensemble dans cette société. Et c'est la raison pour laquelle l'école, vous le savez, nous avons cette chance en France, c'est une école laïque, gratuite, obligatoire, dans laquelle toute une classe d'âge passe, et donc toute une classe d'âge fait l'expérience du vivre ensemble. Et donc, que fait l'école aujourd'hui confrontée à ce défi considérable qu'est la radicalisation, le terrorisme ? Elle veille à transmettre des valeurs, et c'est la raison pour laquelle, notamment depuis un an, on insiste tellement sur l'enseignement moral et civique. Vous avez vu qu'en cette rentrée 2015, il est entré en vigueur de toutes les classes, de la classe de CP jusqu'à la classe de terminale. Tous les élèves ont des temps d'enseignement moral et civique qui n'est pas un enseignement théorique, mais des temps de débat pour justement parler de valeurs, pour confronter des opinions diverses et pour comprendre qu'on peut vivre ensemble même si on n'est pas d'accord. C'est 300 heures sur l'ensemble d'une scolarité pour un élève. Donc ça, c'est une nouveauté importante.
Est-ce qu'on sait donner aux élèves français une sorte de fierté d'être dans la continuité de l'histoire de ce pays? Par exemple, on a exhumé hier un texte de Victor Hugo pour la commémoration Place de la République. Pourquoi on n'en débat pas? Pourquoi on ne se saisit pas de ce texte pour dire que Victor Hugo pouvait dire « Sauver Paris, c'est sauver le monde » et expliquer pourquoi il pouvait le dire et en débattre?
Tout à fait, mais c'est à ça que sert l'enseignement moral et civique. En fait, cet enseignement, comment il se passe concrètement?
L'enseignement moral et civique, c'est des préceptes.
Non, pas du tout, justement. C'est pas de l'instruction civique telle qu'on la connaissait autrefois. Si on a changé les choses, c'est qu'on considérait que ça ne répondait pas à notre demande. Comment se passe un enseignement moral et civique? On entre en classe, on est installé d'abord, non pas comme dans un cours magistral, le professeur devant les élèves, mais on est installé en groupe pour pouvoir se parler, se regarder droit dans les yeux. On part d'un outil qui peut être aussi bien un texte, celui de Victor Hugo, pourquoi pas, que quelque chose d'actualité, un événement qui s'est passé dans l'actualité. Et on commence à commenter, à essayer de comprendre, à analyser, à lever toutes les théories du complot qui circulent tellement parmi la jeunesse, avec l'aide d'un enseignant qui a été formé pour cela et qui a des ressources pédagogiques pour l'aider, qui soit là pour développer l'esprit critique des élèves. Donc c'est vraiment cette nouveauté, j'insiste, hein, parce que, vous savez, on est blasé de tout, mais enfin, depuis septembre 2015, il y a quelque chose de nouveau dans nos établissements, c'est cet enseignement moral et civique dans lequel on apprend des choses qu'on n'apprenait pas auparavant, et notamment l'éducation aux médias et à l'information.
Alors,
pour apprendre à se méfier de certaines images, pour apprendre à se méfier de ce qui passe sur Internet.
Alors nous avons des jeunes qui sont d'origine étrangère, pourquoi on ne parvient pas à enseigner l'histoire commune de la France et du Maghreb, montrer comment elles se sont mêlées, ces deux histoires, et qu'il n'y a pas forcément uniquement du bien d'un côté, du mal de l'autre, que c'est beaucoup plus complexe que cela, et montrer que finalement, les jeunes, qu'ils soient d'origine maghrébine ou qu'ils soient d'origine hexagonale, finalement, peuvent partager une même histoire.
C'est très important l'histoire. Vous vous souvenez que c'est toujours un sujet passionnel. Récemment, lorsqu'on a réformé les programmes de la scolarité obligatoire, il a beaucoup été question d'histoire. On est fort heureusement arrivé à une réforme, à une révision de ces programmes d'histoire qui va dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on parle de toute l'histoire désormais. Je vous invite à consulter les nouveaux programmes qui, eux, rentreront en vigueur à la rentrée prochaine, qui n'occultent aucune période de l'histoire et qui font en sorte, en effet, que chaque élève puisse se reconnaître dans l'histoire qu'on lui raconte. Je pense que c'est ça, en effet, qui permet à chacun de se sentir citoyen ensemble de ce pays.
La laïcité, on veut la défendre, mais il y a des professeurs qui disent être perdus, par exemple, ils disent on ne sait pas ce que veut le gouvernement, Najat Vallaud-Belkacem, elle est d'accord pour que les femmes portant un foulard participent aux sorties scolaires, et d'autres sont contre. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ?
Alors, la laïcité, d'abord, c'est un sujet sur lequel on a considérablement progressé depuis le début du quinquennat, depuis 2012, la laïcité à l'école. Si je devais résumer les choses, je dirais que ce dont on a beaucoup pâti ces dernières années, c'est que le thème même de la laïcité a été dévoyé dans le débat public. Il a trop souvent servi à certains partis politiques d'instrumentalisation, d'outils contre l'islam. C'est ainsi qu'il a été présenté dans le débat public. Et ce faisant, beaucoup de jeunes dans nos écoles ont fini par considérer la laïcité comme une atteinte intolérable.
Moi, j'ai entendu la balle à calotte aussi, c'est pas l'islam en l'occurrence.
Oui, enfin, soyons honnêtes, ces dernières années dans le débat public, c'est essentiellement contre l'islam que la laïcité a pu être présentée par certains. Je ne dis pas par tous, il y a des gens qui défendent honnêtement la laïcité, mais beaucoup l'ont utilisée à ce dessin-là. Et beaucoup de jeunes, du coup, ont fini par être convaincus que la laïcité s'opposer à ce qu'ils étaient, à ce qu'était leur famille, à ce qu'étaient leurs convictions religieuses. Et donc l'école a dû, depuis 2012, faire un travail considérable pour réexpliquer de façon beaucoup plus pédagogique ce qu'est la laïcité.
1200 formateurs qui vont à leur tour former les enseignants un an et demi après Charlie Hebdo.
Non mais je crois que, pardon, c'est vous qui ne vous rendez pas compte de ce que ça signifie dans l'école que de reprendre à zéro ce sujet de la laïcité, que de former en effet les enseignants. 1200 formateurs, comprenons-nous bien, ça veut dire 1200 formateurs qui ensuite sillonnent toute la France pour former à leur tour des enseignants. C'est 300 000 enseignants qui seront formés sur les questions de laïcité. Il y en a déjà plusieurs dizaines de milliers qui l'ont été ces derniers mois. Et ça va continuer. Mais c'est aussi la journée nationale laïcité qui a lieu le 9 décembre, pendant laquelle dans toutes les classes, dans tous les établissements, les élèves comprennent le sens de la laïcité parce qu'ils y travaillent. C'est ce que nous avons fait, le livret laïcité que nous avons adressé aux chefs d'établissement pour qu'ils puissent répondre à des questions basiques qui se posent. Comment je réagis quand tel élève me parle de créationnisme, par exemple, ou quand tel élève refuse d'aller faire un cours de sport, avec des questions auxquels on rapporte des réponses simples et juridiques, leur permettant de ne pas se sentir seuls. Donc oui, sur ce champ de la laïcité, nous avons beaucoup avancé, mais il faut continuer le travail, c'est pas fini.
Merci Najat Vallaud-Belkacem.
Merci.